Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de LégioBox consacré aujourd'hui aux chansons dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est parti! De 1940 à 1944, les conditions d'existence dans la France défaite et occupée sont difficiles. Pour autant, la vie artistique et culturelle conserve une grande vitalité tout au long des années noires. La création musicale connaît alors un grand dynamisme et une réelle diversité. Les chansons de variété peuvent évoquer les tristes réalités de l'époque, servir de support de propagande au régime de Vichy, ou encore inciter à la résistance. À la fin des années 1930, la situation se tend en Europe. Hitler multiplie les provocations. En 1936, il s'allie avec le dictateur italien Mussolini, réarme son pays, annexe l'Autriche, l'Anschluss, et envahit la Tchécoslovaquie en 1939. Face à ces violations du traité de Versailles, les démocraties qui redoutent par-dessus tout une nouvelle guerre restent passives. En France, l'état-major croit pouvoir compter sur la ligne Maginot, un système de fortification censé rendre la France impénétrable. Plusieurs chansons entonnent ce même refrain. Pour Réventura et ses collégiens, on ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried.
Tous les petits poilus joyeux apprirent leur refrain, et bientôt tout le régiment entonna gaiement.
On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc.
Au cours des 8 mois de la drôle de guerre, les soldats s'ennuient ferme au front. Les grands noms de la variété comme Joséphine Baker ou Maurice Chevalier s'emploient à soutenir le moral des troupes en se produisant devant les soldats. Momo pouvait y chanter, ça fait d'excellents Français, une exaltation de l'union des Français face au péril.
Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.
La fulgurante attaque allemande de la France par les Ardennes en mai 1940 oblige à en rabattre. L'armée française, prétendument invincible, subit la plus terrible défaite militaire de son histoire. C'est une débâcle. Devant l'avancée des troupes allemandes, des millions de civils fuient en désordre vers le sud, c'est l'exode. Sans aller jusqu'à évoquer l'occupant, le petit réfugié ou « quand tu reverras ton village » par Tino Rossi témoigne de la douleur ressentie par ceux qui doivent tout laisser derrière eux.
Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton clocher, ta maison, tes parents, tes amis de ton âge, tu diras rien chez moi n'a changé.
1,6 million de soldats français sont emprisonnés dans les stalags en Allemagne. Les chansons reviennent sur l'absence des pères de famille et la solitude des épouses. C'est le cas de « Seul ce soir » interprété en 1941 par Léo Marjane.
Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour.
De même, J'attendrai, chantée par Rina Kitty en 1937, prend une nouvelle signification et redevient une chanson d'actualité après la débâcle.
J'attendrai.
Le 16 juin 1940, le maréchal Pétain, ancien héros militaire de la Première Guerre mondiale, devient le chef du gouvernement. Il s'empresse de signer l'armistice le 22 juin. Les combats prennent fin. La partie nord et ouest de la France est occupée par l'armée allemande quand une zone sud, dite libre, passe sous le contrôle théorique du régime de Vichy. Les prisonniers de guerre français restent en captivité. Enfin, la France doit entretenir les troupes d'occupation. Le pays passe à l'heure allemande, tandis que les uniformes vert de gris paradent dans les rues de la capitale. Serge Reggiani use d'une métaphore animalière pour évoquer cet épisode traumatique dans sa chanson « Les loups sont entrés dans Paris ».
Les loups ont envahi Paris !
attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents faire carousse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors ?
Les Français doivent endurer rationnement, pénurie, absence de liberté. Plusieurs morceaux composés alors reviennent sur les difficultés matérielles de ces années noires. Georges Jus dénonce d'un ton badin l'essor du marché noir avec « Elle a du stock ». À défaut de se remplir le ventre et d'acheter de coûteuses denrées sous le manteau, Jacques Pils se félicite de sa fortune au marché rose.
D'accord, je n'ai plus rien du tout dans mes placards. D'accord, je suis un pauvre type, un naïf, un chabat. Mais j'ai toujours de l'amour quand mon cœur je garde en cachette. Au marché rose, je l'achète. Ne dites rien ou bien on me pendrait haut et court.
Le système D s'impose comme le suggère ironique Georgius avec la campagne chez moi.
J'ai la campagne chez moi. J'ai la campagne sous mon toit. J'ai un mouton sur mon balcon, un tout jeune veau sur mon piano. J'ai des canards dans un placard, un gros porc dans mon coffre-fort.
L'heure est aux ersatz, comme s'en amuse Maurice Chevalier dans la symphonie des semelles de bois. En 1941, Fernandel chante quant à lui les jours sans.
Nous avons des jours sans ou bien des jours avec. Les jours sans, on le sait, sur les autres dominent. Il y a les jours sans bonbons, les jours sans cervelas, les jours sans pâtisserie comme les jours sans fine. Il y a que les jours sans facture que nous ne connaissons pas. Quand il manque ce qui manque, on se console en disant « c'est un jour sans ».
On notera que la tonalité de tous ces morceaux reste avant tout humoristique. Peut-être pour passer la censure, mais aussi car la chanson se doit de divertir. Ainsi, il n'est pas question d'évoquer la politique de collaboration mise en œuvre par Vichy, l'arrestation des opposants ou la mise en place d'une législation antisémite. Le régime de Vichy est un État autoritaire fondé sur le culte de la personnalité du maréchal Pétain et sur des valeurs réactionnaires. La devise « travail, famille, patrie » remplace celle de la République. Les valeurs de l'État français se déclinent en chansons avec des mots exaltant les piliers de la France-Rance du maréchal. Par conviction ou opportunisme, les paroliers s'inspirent des thèmes de la Révolution nationale et louent l'ordre nouveau prôné par les idéologues de Vichy. Les femmes sont contenues dans leur rôle de fécondatrice et de ménagère. En 1941, Eliane Sélis chante ainsi d'une voix langoureuse « Être maman ». D'autres chansons militent pour le retour à la terre voulu par Pétain. Semons le grain et la lumière, propose André Dassary dans un morceau qui s'inscrit parfaitement dans le carcan vichiste de promotion de la ruralité.
Au travail, semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté, de la terre nourricière, jailliront les fleurs de liberté. Gaiement pour la France éternelle, donnons nos cœurs, donnons nos bras.
Ah que la France est belle de Marcel Bordas reprend à son compte les images d'Épinal vichiste d'une France exclusivement rurale, avec ses champs, ses bois, ses vallons, ses clochers. En 1941, pour Chevalier, ça sent si bon la France. Montagard et Gourtiou, les auteurs de Maréchal nous voilà, imaginent, eux, une marche intitulée La France de demain, qui bénéficie, comme la précédente, d'une intense diffusion. Le succès escompté n'est pourtant pas au rendez-vous, malgré l'inévitable André Dassary qui chante.
Nous avons côtoyé l'abîme, mais crânement nous le disons, avec la joie qui nous anime, nous rebâtirons la maison. En suivant le grand chef sublime qui nous a montré le chemin.
Les libertés fondamentales sont bafouées, les partis politiques et les syndicats interdits. Pétain est le chef de l'État français et dispose de tous les pouvoirs. Dès son installation, le régime développe une propagande massive autour de la figure du maréchal. Tous les médias sont sollicités pour louer les mérites du chef, en particulier le chant, paré de nombreuses vertus, dont celle d'unir et de discipliner ses exécutants. Aux yeux des autorités, le chant choral devient une école de virilité favorisant l'unité derrière le sauveur de Verdun. La pratique du chant s'impose enfin comme moyen d'encadrement en particulier de la jeunesse, objet de toutes les attentions.
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas.
En juillet 1941 est publié « Maréchal, nous voilà ». Ce chant, véritable hymne officiel du régime, illustre l'extrême personnalisation du pouvoir. La musique attribuée à Charles Courtiou est en fait un plagiat d'un morceau de Casimir Oberfeld, un compositeur juif qui mourra à Auschwitz en 1943. Massivement radiodiffusée, cette marche entraînante est interprétée lors des cérémonies officielles. L'hymne vichiste loue jusqu'à l'écœurement les mérites du chef, les jeunes auxquels s'adresse la chanson. « Nous voilà ». Se prosterne devant l'ancêtre dont il vénère les ans. Il a 85 ans en 1941. Omniscient, Pétain y est à la fois dépeint comme le sauveur de la France, comme un martyr n'hésitant pas à se sacrifier pour le pays, et enfin comme le guide qui assurera le redressement national. Prétendant, je cite, « alléger le poids des souffrances du pays, améliorer le sort des prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation, Pétain engage le pays dans la voie de la collaboration. » Dès lors, Vichy participe à l'effort de guerre en envoyant de jeunes Français travailler dans les usines en Allemagne, soit de façon volontaire dans le cadre de la relève, soit de force avec l'instauration en 1943 du service du travail obligatoire. Après avoir promulgué un statut des Juifs transformant ces derniers en parias, Vichy mène une active politique de collaboration policière, mettant la police de l'État français au service de l'occupant, comme lors de la grande rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. La milice pourchasse non seulement les Juifs, mais aussi tous ceux qui s'opposent à la politique de collaboration. Les persécutions reposent largement sur les dénonciations que les autorités encouragent. Le corbeau de Zwinkels donne la parole à un abject délateur.
Lettre numéro 67, sale insecte, tes agissements au sein de la communauté me débêtent. J'aime demander si les gens savent que t'es juif à moitié tchèque. Et s'ils apprenaient ça, serait mauvais pour ton compte tchèque. En sortant l'info, c'est ton champ d'action que je limite, vu que la moitié du bled est antisémite.
Refusant la défaite, le général de Gaulle lance un appel à la résistance le 18 juin 1940. Au fil des mois, il parvient à se faire reconnaître par les alliés comme une figure crédible et crée les forces françaises libres. À l'intérieur du pays, des Français organisés en mouvements et réseaux luttent contre l'occupant allemand et la politique de collaboration de Vichy, menant des actions de sabotage, de propagande, de renseignement ou de combat. Dès 1942, Jean Moulin est l'envoyé spécial du général de Gaulle chargé d'unifier la résistance française derrière ce dernier dans le cadre d'un Conseil national de la résistance. À partir de 1943, les maquis rassemblent des jeunes qui refusent le service du travail obligatoire et prennent les armes. Les résistants sont soumis au danger de la clandestinité et de la répression.
Ici Lan. Les Français parlent aux Français.
La lutte contre Vichy et l'occupant passe par la lutte armée, mais aussi par la propagande. Tout au long du conflit, les principaux protagonistes se livrent à une véritable guerre des ondes. En zone occupée, Radio Paris est sous contrôle allemand. En zone libre, la radiodiffusion nationale sert d'instrument politique à Vichy. La radio anglaise de la BBC met à disposition de la France libre des créneaux afin d'y diffuser des émissions aux Français. La plus efficace et incisive se nomme « Les Français parlent aux Français ». L'objectif est de divertir tout en discréditant la propagande servile de Vichy à l'aide de sketchs, scénettes, chansonnettes bien senties. L'équipe trouve le ton juste sur des airs traditionnels ou des succès. Maurice Van Mopes imagine une vingtaine de chansons parodiques dans lesquelles il raille l'occupant et ses suppôts vichistes. Dans le cadre de la campagne des V, qui consiste à tracer sur les murs la première lettre du mot « victoire », Van Mopes imagine la chanson des V. Pierre Dac, lui, chante « Les gars de la vermine »,« Les fils de Pétain » ou encore « La complainte des nazis », interprétée ici par Mouloudji.
C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. à vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis.
Fin 1942, à Londres, Anna Marley adapte un air russe et rédige un texte louant la bravoure des troupes irrégulières russes confrontées à la furie meurtrière des nazis. Joseph Kessel et Maurice Druon s'attellent à une version française du morceau intitulé « Le chant des partisans ». Violente, dure, sanglante, tout à la gloire des combattants clandestins, les paroles sont ancrées dans la sombre réalité d'un pays en guerre. L'anaphore « Ami, entends-tu » incite l'auditeur à s'engager, à faire payer le prix du sang et des larmes à l'ennemi, assimilé à la figure du corbeau.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
La complainte du partisan est l'autre chant emblématique de la résistance. D'une plume agile, sur une mélodie nostalgique et prenante d'Anna Marley, le grand résistant Emmanuel Dastier de la Vigerie évoque les valeurs ainsi que les conditions d'existence et de combat des partisans. D'inspiration nettement moins guerrière et démonstrative que sa cousine, la complainte incite plutôt à l'introspection. Bien que diffusée par la BBC, elle reste peu connue à l'issue du conflit. En 1969, Leonard Cohen en propose une adaptation sublime.
J'ai changé 100 fois de nom, j'ai peur de femmes et enfants, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
Les débarquements de Normandie le 6 juin 1944 et de Provence le 15 août permettent aux troupes alliées, aidées par les forces françaises libres et les forces françaises de l'intérieur, de libérer la France de l'occupant allemand et du régime de Vichy. Pour les collabos, l'heure des comptes a sonné. Voilà, l'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt.